www.libradio.org. Libre Radio, la radio qui t'écoute. Soutiens la radio. Cagnotte populaire solidaire sur le site, merci.
Alors nous sommes le 1er février ici depuis le Silur à Genève, donc on le rappelle c'est un centre culturel autogéré qui se trouve aux 3 chemins des Saules, c'est à portée de la ville de Genève, tout près, le tram 14 nous y mène à l'arrêt Palladium, et nous sommes en compagnie de Guillaume Davranche. Bonjour à toi Guillaume.
Bonjour.
Alors nous devisons en ce moment concernant ton livre qui vient de sortir, la parution date du 16 janvier 2020, donc c'est tout soudain, paru aux éditions Libertalia et qui s'appelle 10 questions sur l'anarchisme. Peut-être pourrais-tu commencer par te présenter parce que ça n'est pas ton premier ouvrage, et quel est ton parcours d'écrivain? Qu'est-ce qui t'a mené à te questionner sur l'anarchisme? Qu'est-ce qui t'a mené à vouloir y répondre et à vouloir publier autour de ça?
Ah oui, alors je vais commencer par préciser que je ne suis pas écrivain.
Très bien, très bien.
Moi, je suis un militant, hein, clairement. Je prétends pas vraiment avoir fait une œuvre littéraire, là. Je suis militant depuis 25 ans déjà, dans le mouvement libertaire. Je suis issu de la génération en France qui était celle des luttes, en fait, contre en 1993, 94 et 95. Voilà, donc la lutte contre le SMIC jeune, qui était une invention du gouvernement Balladur pour payer moins les jeunes que les vieux, contre la révision de la loi Halou en 94, dans le mouvement étudiant de 95, et puis lors des grandes grèves de décembre 95, bref, voilà. Donc moi, je suis un peu de cette génération-là, et j'ai commencé à militer à Alternative Libertaire dès cette période. Voilà, donc maintenant, j'ai 25 ans de militantisme dans les pattes, c'est pas rien. Et en 2014, comme tu le disais, j'ai sorti un livre, parce que je m'intéresse, on va dire ça, beaucoup à l'histoire, l'histoire du mouvement révolutionnaire, du mouvement ouvrier. Et donc en 2014, j'ai sorti un premier livre chez Libertalia qui s'appelle « Trop jeune pour mourir » et qui étudie en fait l'attitude du mouvement anarchiste et syndicaliste en France, face à la montée vers la guerre entre 1909 et 1914. Le bouquin a bien marché, voilà, et Libertalia m'a sollicité, du coup, il y a maintenant un an et demi, pour sortir ce petit livre, qui est beaucoup moins ambitieux, puisque c'est un petit livre de 120 pages, hein, où Libertalia me disait, bon, voilà, il faudrait qu'on réussisse à faire un petit livre, grand public, facile à lire, pas cher, parce qu'il y a vraiment énormément de gens qui nous demandent un truc de ce type-là sur l'anarchisme pour comprendre tout simplement rapidement les points de repère, qu'est-ce que ce courant politique propose, voilà.
D'accord.
Et donc on a un peu discuté de comment le faire, parce que en fait ce genre d'ouvrage existe déjà beaucoup chez un certain nombre d'éditeurs, mais on était assez critique de ce qui existait déjà sur le marché, hein, entre guillemets, et que trop souvent c'était des choses un peu faciles. Du type anthologie de textes sacrés, du type copier-coller de Wikipédia, du type truc un peu trop philosophico décalé de la réalité, quoi. Et donc on a réfléchi à la forme et on est arrivé sur cette forme 10 questions parce que c'était une forme qui nous semblait la plus appropriée. Ça permet d'aborder tous les sujets politiques principaux. La démocratie, l'économie, la question féministe, écologiste, parler d'histoire aussi, bien sûr, parler de l'expérience des révolutions passées, parler des stratégies révolutionnaires, parler des formes organisationnelles que propose l'anarchisme. Et puis, ça permettait également d'avoir un peu un point de vue personnel, hein, bien sûr, parce que il s'agissait pas non plus de faire comme si j'allais... enfin, voilà, je suis pas un universitaire... Il parle de loin de tout ça, hein. Je suis quand même quelqu'un de très engagé. Donc même si je me suis efforcé de faire un travail impartial et qu'il ne soit pas un travail univoque, hein, c'est-à-dire que j'ai quand même puisé à de multiples sources, bien, j'ai quand même un point de vue, hein, évidemment, critique. Donc ça, je ne peux pas m'en départir, ce serait mentir que de dire le contraire. Donc voilà, on a adopté cette forme-là, 10 questions, Et à chaque fois, l'ambition, c'était de faire 10 chapitres qui ne dépassent pas 11 ou 12 000 signes, ce qui est peu, qui oblige à vraiment un gros effort de synthèse et de concision. Et voilà, le résultat est tombé, donc effectivement, en janvier de cette année, quoi.
Voilà, le livre est à, on peut le commander sur le site des éditions Libertalia, dont je donne l'adresse, c'est édition au pluriel libertalia.com. On peut le commander au prix de 5 euros. Dis-moi, comment est-ce que as-tu recensé ces 10 questions-là, plutôt celles-là que d'autres? De quelle manière est-ce que tu as fait le filtre?
Alors, la première question, celle qui est dans le mouvement anarchiste déterminante, et c'est pour ça que je l'ai placée en premier, en fait, hein, c'est la question économique. Parce qu'en fait, l'anarchisme, ce qui distingue d'autres courants politiques, quand même, c'est qu'il a tendance à dire que, par exemple, il ne peut pas y avoir de... Le capitalisme est incompatible avec la démocratie. Voilà, c'est un truc assez fondamental quand même. Et qu'il ne peut pas y avoir de grands choix démocratiques dans une société si une sphère aussi essentielle que l'économie, c'est-à-dire la production, la distribution, la consommation, si cette sphère essentielle échappe au contrôle démocratique, si elle échappe au choix collectif, et donc dans le cadre du marché, voilà. Donc la première chose à faire, déjà, c'est de renverser tout ça, de finir avec le capitalisme et de créer une économie totalement différente, une économie libertaire, autogestionnaire. Donc c'est le premier chapitre du livre. Voilà.
D'accord.
Le deuxième, c'est celui qui lui est intimement lié quand même, mais j'ai choisi de le placer après, c'est la question politique et démocratique. Voilà. C'est-à-dire comment est-ce qu'on envisage une société libertaire qui soit débarrassée de l'État, hein, c'est-à-dire en tant que pouvoir politique séparé de la société, et comment est-ce qu'on fait redescendre le pouvoir dans la société, comment en fait est-ce qu'on invente un pouvoir populaire, pour reprendre un vocabulaire qui n'est pas très à la mode dans le mouvement libertaire français, pouvoir populaire, mais qui, par exemple, est très utilisé par nos camarades anarchistes sud-américains sans aucun problème, et qui est un peu, et qui d'ailleurs est également de plus en plus employé au sein de l'Union communiste libertaire, qui est une organisation dont je suis membre. Voilà, donc ça c'est le deuxième chapitre, et puis après, les autres chapitres, en quelque sorte, ils s'enchaînent un peu avec une certaine logique derrière. La question écologiste vient très vite, parce que de toute façon, c'est une question qui s'impose à nous, à tous les courants politiques, et qui s'impose à l'humanité, voilà. Donc la question écologiste, voilà, dont je dis qu'en gros, de toute façon, il n'y a pas de solution écologiste. Il n'y a pas de solution écologique, il n'y a pas de solution à la crise climatique dans le cadre du capitalisme. C'est antinomique, totalement. Voilà. La question féministe, bien sûr, qui est extrêmement importante. Une question qui est pas facilement abordée, et qui pourtant a des conséquences politiques énormes dans l'histoire et dans la société et dans la géopolitique, c'est la question des nationalités et de l'internationalisme, et de comment le mouvement anarchiste, qu'est-ce qu'il a à dire sur la question, comment il s'est engagé dans les luttes, hein, là-dessus, les luttes de libération nationale, les luttes transcoloniales, voilà, selon les pays, selon les époques. Donc j'explique un petit peu tout ça. La question également, puis après j'aborde des questions qui sont assez pragmatiques dans le mouvement anarchiste actuel et réellement existant. C'est en cela que j'ai pas fait un livre très tourné vers le passé, mais j'ai fait un livre qui parle aussi beaucoup en fait du présent et de l'actualité. C'est-à-dire que j'ai un chapitre qui est consacré à la question des stratégies révolutionnaires, comment le mouvement anarchiste envisage de changer la société, et puis un chapitre sur la question des formes organisationnelles, c'est-à-dire comment est-ce que concrètement on s'organise pour mener tout ça. Voilà. Voilà, il y a également un chapitre plus historique. Enfin, il y a deux chapitres historiques. Un qui explique d'où vient l'anarchisme. Un autre qui explique quel était son rôle dans certaines révolutions passées et quelles ont été ses stratégies en fait révolutionnaires dans la révolution russe, par exemple, ou mexicaine. Voilà. Et puis, à la fin, il y a un petit chapitre, enfin non, un gros chapitre, en fait, bonus. C'est le 11e chapitre, en fait. Pas tout à fait prévu au départ, mais que par la force des choses, il était impossible de ne pas faire. Qui est un chapitre avec où il y a une sélection, en fait, il y a 23 petites notices biographiques sur des militantes et des militants, où là, c'est un peu un savant dosage, parce que je voulais avoir des gens qui soient représentatifs à un moment donné d'une région du monde où le monarchiste a été fort. Et donc, il fallait s'efforcer d'avoir au moins un Uruguayen, un Cubain, un Coréen, un Japonais, etc., etc. Et pas seulement des Français, des Espagnols et des Américains, quoi, en gros. Voilà, donc il y a aussi un peu un tour du monde par des petits portraits qui sont très courts, en fait, et où à chaque fois, j'essaye de présenter le personnage sous un certain jour qui, en fait, est explicatif aussi de quelque chose de politique. Ah, si je peux donner un exemple, Durruti.
Oui.
C'est impossible de résumer Durruti en 500 signes. Voilà, donc j'ai renoncé évidemment à faire une biographie de Durruti en 500 signes, ça n'aurait pas eu de sens. Quand je parle de Durruti, en fait, je le prends sous l'angle uniquement « Fallait-il abandonner le front d'Aragon pour aller sauver Madrid ?» Voilà, donc c'est un truc vraiment très précis, mais qui est un moment de dilemme politique pour Durruti qui est extrêmement important et qui est également un moment de dilemme et de basculement pour la Révolution espagnole, parce que Durruti aurait pu incarner une certaine voie dans la Révolution espagnole, une certaine voie révolutionnaire, et que sa mort aussi a eu donc du coup des répercussions, sa mort à Madrid, hein, a eu des répercussions extrêmement importantes pour la suite de la Révolution espagnole. Donc voilà, à chaque fois, je fais pas de la géographie militante, hein, en quelque sorte, je me contente pas de chanter les louanges de tel ou tel. Je peux dire y compris d'ailleurs quelles ont été leurs limites, hein, voilà. Mais j'essaye à chaque fois de les inscrire dans l'histoire et dans la signification politique qu'ils ont pu avoir à un moment donné.
Très bien, c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, j'allais te questionner sur ces éléments de biographie. Sont-ils plus des figures tutélaires d'une certaine manière, des événements qui ont eu cours ou des entités? Eh bien, c'est un petit peu les trois à la fois, pourrait-on dire.
Oui, en fait, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Tous les militants que je cite dans cette biographie ne sont pas des figures tutélaires, voilà, justement.
Oui.
Peut-être qu'il y en a, parce qu'une figure tutélaire, en fait, c'est toujours une reconstruction a posteriori. On peut dire a posteriori que Bakounine, par exemple, est une figure tutélaire, sachant que Bakounine, par exemple, s'est très peu dit anarchiste. Hein. Le mouvement anarchiste est véritablement né dans les années qui ont suivi sa mort. En réalité, hein, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans un des premiers chapitres sur d'où vient l'anarchisme, d'où ça vient cette histoire-là, en expliquant que par exemple des gens qu'on considère comme quelqu'un comme Proudhon est un précurseur en fait, c'est pas le fondateur exactement de l'anarchisme, on peut pas dire ça. Bakounine, de la même façon, va avoir joué un rôle très important dans la gestation du mouvement, mais le mouvement réellement existant, c'est-à-dire bon, moi, je dis que l'anarchisme, en fait, existe à partir du moment où une fraction de militants au sein du socialisme révolutionnaire disent « Eh bien, voilà, nous prenons conscience et nous affirmons qu'en fait, nous formons une école distincte. Nous formons une école socialiste distincte. Cette école, c'est l'anarchisme. » Et ça, c'est tout à fait délimitable dans l'espace et dans le temps. Hein, ça se passe dans un triangle franco-italo-suisse. Entre 1876 et 1880, en gros. C'est-à-dire, on est vraiment dans les 4 années qui suivent la mort de Bakounine. Et là, il y a un certain nombre de gens dans les montagnes suisses, dans le Jura, en fait, suisse, et parmi lesquels il y a des gens connus, hein, Kropotkine, la Malatesta, il y a Cafiero, il y a Élisée Reclus, il y a des gens comme ça. Et c'est une sorte de melting pot de révolutionnaires en exil, hein, des communards, des maquisards italiens, des révolutionnaires russes, qui se retrouvent là, réfugiés dans le Jura suisse, et qui discutent énormément et qui vont faire une sorte de big bang, voilà, en termes d'idéologie, en termes d'idées révolutionnaires, et qui ensuite vont disséminer en toute l'Europe à partir de là, et qui vont donner véritablement naissance au courant anarchiste. Voilà. Je me suis un peu éloigné de la question.
Non, mais c'est très bien.
C'est pour dire que Bakounine est une figure tutélaire parce qu'elle a été choisie en fait par ses successeurs comme tel, évidemment, et elle a été choisie plutôt que Proudhon. Par exemple, ça aussi j'explique, Proudhon, dans une certaine mesure, le mouvement anarchiste est construit contre Proudhon, il faut aussi comprendre ça. Proudhon, on a fait vraiment une sélection de ce qu'il a pu écrire pour n'en garder que ce qu'on en souhaitait. Ce qu'on a gardé de Proudhon, c'est l'autogestion, c'est le fédéralisme, c'est la capacité politique des classes ouvrières, c'est l'autonomie ouvrière, voilà, des choses comme ça. Par contre, un certain nombre d'aspects jugés conservateurs de Proudhon, par exemple la petite propriété, le maintien du marché, ben non, Proudhon était favorable au maintien du marché, de la concurrence entre les entreprises, des entreprises autogérées en concurrence entre elles. Voilà, Proudhon était favorable à ça, en partie. Voilà, faut pas non plus caricaturer. Tout ça, ça a quand même, ça a été laissé de côté par le mouvement anarchiste.
Ouais.
On a préféré la figure de Bakounine parce que Bakounine était plus véritablement révolutionnaire. Il était collectiviste. Et en plus, il avait aussi cette spécificité qui, quelque part, tient beaucoup à la culture révolutionnaire russe. Il était plutôt, même beaucoup, pro-féministe. En fait, hein, contrairement à Proudhon, dont la misogynie est assez connue. Bakounine est très pro-féministe et l'anarchisme des premiers temps était sur des positions révolutionnaires par rapport à l'égalité homme-femme.
Oui. Tu as également parlé de lieu. Hein, là, tu as, au travers de ton propos, on entend parler de Buenaventura Duluth, donc de la guerre d'Espagne. Selon toi, peut-on dire que il naît justement dans le Jura à Saint-Imier quelque chose de particulier au moment où le premier congrès anti-autoritaire se tient? Il y a de cela quasiment 150 ans, puisqu'en 2022, on célébrera d'une certaine manière, on saluera en tout cas ce moment-là. Selon toi, peut-on placer, peut-être géographiquement, en tout cas quelque chose, un marqueur à ce moment-là?
Bah moi, s'il faut placer un marqueur, je ne placerai pas, par exemple, le congrès de Saint-Imier de 1872, puisque tu me poses la question. Le congrès de Saint-Imier de 1872, on peut dire que c'est un congrès d'affirmation, effectivement, de l'international anti-autoritaire, hein, c'est-à-dire, en fait, c'est la fraction de la première internationale qui refuse les manigances de Karl Marx et de ses amis. Ils s'en dissocient et ils continuent en fait la première internationale, mais sur des formes beaucoup plus fédéralistes, mais au sein de cette internationale dite anti-autoritaire, c'est un petit peu aussi un qualificatif reconstruit a posteriori, il y a en fait des tendances qui sont quand même assez différentes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des Espagnols qui sont plutôt collectivistes révolutionnaires et axés sur l'action ouvrière large qui va préfigurer le syndicalisme révolutionnaire et anarcho-syndicalisme qu'on va connaître en Espagne. Il y a à la fois des Italiens qui sont plutôt des maquisards révolutionnaires. Il y a des Français qui sont un petit peu des rescapés de la Commune et qui veulent refaire parler la poudre le plus vite possible. Et puis, il y a aussi des Anglais ou des Belges qui, eux, sont dans une logique plutôt réformiste, en fait, hein, en réalité. Ils sont dans une logique d'autonomie ouvrière, mais plutôt sur une ligne réformiste, et ensuite, ils vont s'orienter vers le parlementarisme. Et puis, il y a les Suisses, qui sont dans une logique également d'action ouvrière, qu'on pourrait dire pré-syndicaliste, hein, en quelque sorte, qui ne sont pas du tout la pointe révolutionnaire avancée, hein, mais qui sont sur une action ouvrière large et d'autonomie ouvrière. Donc ça, c'est 1872, c'est à ce moment-là que tous ces courants, qui sont quand même assez divers, s'unissent au sein de la première internationale continuée, donc sans Karl Marx et ses amis qui ont été jugés trop manœuvriers. Mais en fait, moi, si je dois donner un point de départ réellement au mouvement anarchiste en Europe et puis dans le monde, hein, c'est vraiment plutôt les deux congrès qui tiennent à la Chaux-de-Fonds en 1879 puis en 1880, où là, ce sont les congrès où le mouvement décide, enfin le mouvement, est-ce qu'on peut parler de mouvement quand il s'agit encore que à ce moment-là de quelques dizaines ou centaines de personnes, hein, mais en tout cas le choix est fait lors de ces congrès de définir quel est notre objectif politique et de définir quelle est notre stratégie politique. L'objectif, c'est le communisme. C'est là que c'est défini à ce moment-là, en 79 et en 80, à la Chaux-de-Fonds. L'objectif, c'est le communisme. On renonce au collectivisme qui précédait dans la première internationale chez Marx et Bakounine. On choisit le communisme et on choisit également une stratégie qui va être la stratégie insurrectionnaliste. C'est-à-dire faire le coup de feu, essayer de fomenter des émeutes, essayer de fomenter l'insurrection pour déclencher la révolution. Ça, c'est le premier anarchisme, hein, celui-là. Et moi, je donnerais plutôt, effectivement, ces dates-là comme vraiment les dates fondatrices du mouvement. Quoi.
D'accord, merci beaucoup. Dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui restitue une actualité brûlante, à l'anarchique, il faille que justement, eh bien, on le questionne et qui, toi, bah, t'as conduit à produire ce livre et à faire ces recherches-là. Est-ce que le climat entre en matière là? Et deuxième volet de la question, qu'en est-il de ton regard, que tu as parlé toi-même d'actualité? Quel est ton regard en France sur, eh bien, les grèves qui ont cours actuellement, le mouvement des Gilets jaunes? Ça, j'aurais envie de te questionner à ce propos pour la France et à l'international de mouvements tels que le zapatisme au Mexique ou alors le Rojava qui défraye un petit peu la chronique en ce moment.
Bah, pour moi, il y a deux choses, hein, qui montrent que le projet anarchiste est toujours plein d'actualité. Il y a une chose qui relève du temps long, il y a une chose qui relève de l'actualité immédiate. Hein, sur le temps long, déjà, je pense que la crise climatique et écologique, elle met vraiment l'anarchisme, les solutions anarchistes en lumière, parce qu'en fait, de plus en plus de gens sont conscients qu'on ne sauvera pas la planète avec le capitalisme. Voilà. En fait, ça, c'est de plus en plus admis, hein, avec de plus en plus de facilité, y compris par des gens qui n'ont rien de très radicaux, mais ils le comprennent bien, que la logique du capitalisme, c'est la fuite en avant dans la production et la logique productiviste, extractiviste, etc., etc. Donc il faut effectivement en finir avec le capitalisme. Beaucoup de gens ont conscience de ça. Après, ils savent pas comment faire, hein, bien sûr, mais ils ont conscience qu'il y a un problème là. Là où l'anarchisme apporte vraiment des solutions, c'est parce que le modèle qu'il prône, qui est un modèle où la production est décidée collectivement, enfin on doit pouvoir, la société doit pouvoir fixer en fait des caps, des scénarios, des modèles en fait de production. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit comme modèle énergétique? Est-ce qu'on choisit un modèle fondé sur l'extraction, sur le nucléaire, ultra centralisé, ou est-ce qu'on choisit des modèles de sobriété énergétique, décentralisés, adaptés aux besoins des populations et non pas à la recherche du profit financier? Voilà, ça, l'anarchisme, il a des réponses là-dessus qui sont claires. Sur la question de l'organisation de la société, de la démocratie dans la société, les solutions fédéralistes qui sont proposées, elles offrent des réponses aussi, clairement. Et ça renvoie à l'actualité immédiate. Tu parlais du mouvement des Gilets jaunes, tu parles des grèves là récemment sur la question des retraites. Bah, là, le projet proposé par le mouvement anarchiste, c'est un projet qui est fondé sur la démocratie directe. Qui est fondé sur une certaine confiance, effectivement, hein, aussi, qui relève un peu du pari, et on ne dit pas non plus que ça garantit tout, la démocratie directe, hein. Mais en tout cas, l'idée qu'il faut faire confiance au choix direct de la population, après débat politique, hein, bien sûr, mais il faut faire confiance au choix direct de la population, parce qu'en moyenne, ça apportera toujours des meilleures solutions que des choix qui sont effectués par des instances de pouvoir séparées, qui sont au-dessus de la société, au-dessus de la population, et qui en fait sont en connivence avec le pouvoir économique et capitaliste. Voilà. Les choix complètement irrationnels, même d'un simple point de vue économique de base, qui est fait aujourd'hui sur les retraites en France, enfin, c'est pas que c'est irrationnel, c'est que c'est un choix qui est fait pour enrichir le secteur des assurances privées, en fait, hein. Ce choix, en fait, ne pourrait jamais exister si le pouvoir appartenait réellement au peuple et à la société. Voilà, personne pourrait décider d'un truc aussi aberrant. Ouais. Et puis s'il n'y avait pas de marché par ailleurs, et s'il n'y avait pas le secteur des assurances privées pour faire du lobbying en faveur de ce type de solution. La défiance du mouvement des Gilets jaunes vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'État, qui se traduit de façon, ça s'est traduit en France par un certain refus de la représentation. Ils ont refusé un peu d'être représentés, y compris par des porte-parole autoproclamés sur Facebook. Donc ça, c'était très très bien. Et nous, on a encouragé ça. Le mouvement des Gilets jaunes a trouvé par lui-même le chemin vers une structuration autonome. Ça a été, par exemple, l'AG des AG qui s'est tenu à Commercy la première fois. Puis quelques mois plus tard, une autre qui s'est tenue à Saint-Nazaire. Puis quelques mois plus tard, encore une troisième. Où il y avait une sorte de parlement, quoi, des Gilets jaunes qui s'est formé, avec des représentations de la base qui ont fini par définir un programme, avec d'ailleurs, et moi je trouve que vraiment ça encourage le modèle démocratique, de démocratie directe qu'on promeut, parce que on a vu les progrès politiques faits à grandes enjambées par le mouvement des Gilets jaunes à cette période-là. C'est-à-dire qu'au départ, on a un mouvement qui est quand même très confus. où il y a à la fois, enfin il y a tout quoi, mais c'est normal, c'est le reflet de la société. Il y a le tout, il y a des gens, il y a des tendances de gauche, d'extrême gauche, mais aussi de droite, d'extrême droite, conspirationniste, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on en sait. Mais ça part sur une base sociale. Donc de toute façon déjà ça part sur une base qu'on ne peut pas ignorer, hein, et dans laquelle les révolutionnaires doivent avoir un truc à dire, fatalement. Et en fait, en quelques mois, le mouvement évolue très très rapidement, se politise, et les formes organisées qui en sortent, elles sont très positives. Ce sont des formes qui sont sur le modèle qu'on prône, fédéraliste et de démocratie directe et autogestionnaire. Et ça, ils l'ont trouvé spontanément, quoi. Enfin, je dis pas que les libertins n'ont joué aucun rôle dans cette histoire, mais grosso modo, massivement, ça s'est fait spontanément. Après, ça s'est aussi fait un peu. Il faut pas non plus mythifier toutes ces choses-là. Ça s'est fait aussi un peu par élimination, de facto, des tendances rétrogrades et réactionnaires qu'il pouvait y avoir dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens aussi sont partis et parce qu'ils préféraient se contenter de militer sur Facebook plutôt que d'aller dans les assemblées générales, quoi. Voilà. Le tri s'est aussi un peu opéré comme ça. Il faut pas voir les choses de façon idyllique. Mais enfin, tout ça, ça conforte effectivement un peu les stratégies qu'on développe. Et dans le cas des grèves de décembre, janvier contre la réforme des retraites, eh bien là, je dirais que c'est pas tant le projet libertaire en lui-même qui est revalorisé, c'est une des stratégies du mouvement libertaire, qui est donc la stratégie syndicaliste, qui est un petit peu, enfin qui va reprendre du poil de la bête très certainement, parce que dans des secteurs qui ont connu la grève historique, sans doute la plus grande grève de tous les temps, hein, d'ailleurs, aussi bien à la RATP qu'à la SNCF, par exemple, dans le rail, hein, dans le secteur ferroviaire, et dans le secteur des transports urbains à Paris, et puis dans tout un tas d'autres secteurs, hein, dont on a moins parlé, il y a une nouvelle génération militante qui est née, quoi. Une nouvelle génération militante qui va s'emparer des outils de lutte que sont les syndicats combatifs, je ne parle pas des syndicats jaunes bien sûr, mais qui vont s'emparer des outils de lutte que sont les syndicats combatifs, qui vont amener du sang neuf dans tout ça, et qui vont amener aussi leur expérience de la lutte fondée sur une forme de pareil d'assembléisme, de démocratie, qui n'a rien à voir avec le bureaucratisme qu'on peut connaître par ailleurs. Donc ça va encourager nécessairement aussi, au sein du mouvement libertaire français, ça va encourager, je pense, également un certain nombre de militants et de jeunes militantes et militants à se dire bon bah il y a quelque chose à faire là-dedans. Voilà, on peut pas ignorer le poids du syndicalisme de lutte dans la lutte des classes. On peut pas passer à côté, quoi. Il faut qu'on soit là et pas à côté, quoi.
Voilà. Bien, c'est vrai. Quant à justement à ces pays lointains, aux antipodes, de quelle manière est-ce que tu observes, eh bien, le Rojava, notamment, où accourt une révolution féministe, écologiste, vraiment qui est extrêmement, voilà, qui tente de surgir et qui est durement touchée.
Alors le soutien du mouvement libertaire, alors là, c'était un soutien assez unanime, hein, il y a vraiment eu très peu de voix discordantes là-dessus. Le mouvement, à partir de 2014, en fait, à partir de la bataille de Kobané qui a vraiment polarisé la tension mondiale, le mouvement libertaire international s'est porté de façon assez unanime dans le soutien à la gauche kurde, donc au Moyen-Orient. Alors, en France, on observait avec une certaine sympathie, hein, depuis longtemps la cause kurde, mais disons qu'on s'en occupait pas plus que ça. Beaucoup moins, par exemple, que de la cause palestinienne. Et puis, en fait, il est clair que l'expérience du Rojava, le processus révolutionnaire au Rojava, l'évolution du PKK et de la gauche kurde. Quand on dit la gauche kurde, nous, en fait, ce qu'on veut dire par là, quand on parle de gauche kurde, qui est un concept qui n'est pas du tout employé par les camarades kurdes eux-mêmes, hein, par exemple, oui. C'est un raccourci qu'on emploie pour aller vite. On veut dire par là toute la galaxie des organisations syndicales, politiques, coopératives, des mouvements de femmes, etc., qui peuvent exister en Turquie, Iran, Irak, Syrie, qui est vraiment une galaxie qui aujourd'hui est regroupée dans un truc qui s'appelle le KCK, et dont le PKK est un peu le centre de gravité, hein, parce que c'est le parti de la guérilla, et donc c'est un peu le centre de gravité du truc. Et c'est bien plus large que le PKK, et aujourd'hui, on peut dire que la gauche kurde, c'est le pivot de la gauche turque. Enfin, en Turquie, on a bien vu le rôle du HDP, aussi amené à lui quand même les mouvements écologistes, syndicalistes, féministes, de défense des minorités diverses et variées. Bon bref, tout ça est très intéressant. Et sur la question du Rojava, on a regardé assez près en quoi consistait cette expérience révolutionnaire. Il faut se garder d'une chose très importante quand même quand on est révolutionnaire, c'est de tomber dans la mythologie qui souvent peut être teintée d'exotisme pour les révolutions lointaines dans lesquelles on va essayer de placer tout ce qui nous fait envie, quoi. Donc il faut se garder de ça. On a connu ça avec la révolution russe, hein, qui a fasciné beaucoup de gens, mais il fallait quand même savoir être critique, n'est-ce pas? On a vu ça avec la révolution cubaine, la révolution algérienne, le mouvement libertaire a beaucoup aidé les indépendantistes algériens, hein, mais après, on a bien vu comment le parti guide unique FLN a tué l'autogestion en Algérie. Donc voilà, nous, on soutient la gauche kurde, on soutient le processus révolutionnaire au Rojava, mais on a toujours été critiques en disant attention néanmoins, quoi, voilà. Il y a deux choses qui menacent la révolution en permanence. Il y a quelque chose de l'intérieur qui est l'éventuelle dégénérescence bureaucratique ou militaire d'un parti guide, voilà, qui peut être le PKK, dans une moindre mesure le PYD, son équivalent syrien. Et puis il y a une chose qui la menace de l'extérieur, qui est l'ingérence étrangère, l'ingérence impérialiste. Et là, les camarades kurdes, mais bon, c'est là aussi que je pense qu'en tant que révolutionnaire, on apprend énormément en observant ce qu'ils font. Ils savent que dans cette région du monde, de toute façon, des ingérences impérialistes, il y en a toujours. Donc on doit, pour mener sa barque, réussir à être toujours à équidistance des uns des autres, utiliser les uns contre les autres d'ailleurs, utiliser ce qu'on peut obtenir de certains à certains moments, sachant qu'on va être trahi à un autre moment, c'est toujours comme ça. Et c'est de cette façon-là que la gauche kurde a été trahie successivement par la Russie, par les États-Unis, mais que fondamentalement, je pense que ça ne les a pas surpris. Ils savaient qu'à un moment ou un autre, ça allait arriver. Et ce qui comptait, c'était à quel point ils réussissaient à gagner des territoires libérés, ils réussissaient à gagner du temps, vachement important, ils réussissaient à planter effectivement les institutions d'une société nouvelle. Et ce qui est assez spectaculaire, hein, on trouve, c'est que dans cette région du monde, qui pendant 40 ans a connu un régime, donc le régime du clan El-Assad, donc un régime policier, corrompu, pratiquant la torture, raciste, colonial, dynastique, enfin voilà, qui pousse les populations les unes contre les autres, où la société est complètement dépolitisée du coup, eh bien, ils ont réussi en l'espace quand même de quelques années à instaurer une société où il y a pas une forme de démocratie directe, quoi, hein, donc les communes, l'égalité homme-femme qui est instaurée dans le contrat social, tout ça. Alors, faut bien se garder une vision idyllique aussi, hein. Ça se fait dans une région, ça se fait avec la population réelle et non pas la population fantasmée, c'est-à-dire aussi avec tout un tas de résistances conservatrices, etc. Mais la politique, effectivement, de la gauche par rapport à ça, c'est pas une politique coercitive, c'est plutôt une politique d'exemplarité et d'invitation à se joindre à ce processus. Et franchement, on trouve que c'est plutôt bien joué parce que ça a plutôt bien marché. On l'a vu par exemple quand il y a eu l'attaque de l'État turc contre Rojava en octobre 2019. L'État turc, Erdogan, il pariait en fait sur le fait qu'ils allaient diviser les populations du Rojava entre Kurdes et Arabes, comme c'était le cas à l'époque de Bachar, et qu'ils allaient réussir en fait à soulever les régions arabes contre le confédéralisme démocratique qui était censé être une importation, une création des Kurdes. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé. Les populations kurdes et arabes sont restées unies. On peut même dire que l'invasion turque les a plutôt soudées, les a plutôt unies contre l'envahisseur, et que le retour là actuellement des troupes de Bachar el-Assad dans les fourgons de l'armée russe, c'est pareil, ça a plutôt rapproché les populations arabes et kurdes, parce que dans les populations arabes de cette région-là de Syrie, les gens détestent Bachar el-Assad. Ça rassemble plutôt tout le monde. Voilà, maintenant, après l'avenir de la révolution, il est vraiment très très incertain, hein. Il est suspendu à des tas de choses. parce que grosso modo, c'est l'agenda impérialiste russe maintenant qui va décider de beaucoup de choses. Et on a bien vu des différents témoignages qu'on a pu recueillir. Et même j'invite d'ailleurs pour ça à lire le dernier reportage paru dans Le Monde diplomatique là, de ce mois-ci sur la question. Mais des témoignages qu'on a, c'est quand même l'incertitude qui prévaut. Et les camarades kurdes, ce qu'ils disent, là je parle de la diaspora en France hein, qu'on connaît bien, ce qu'ils disent c'est qu'en gros la situation est dure, il faut faire le dos rond, il faut maintenir les acquis, il faut maintenir les institutions démocratiques qui ont été gagnées, mais il faut en quelque sorte un peu attendre des nouvelles circonstances favorables pour repartir de l'avant. Parce que là, ils ne savent pas trop dans quelle mesure ils vont réussir à durer ou est-ce qu'ils vont se faire grignoter progressivement par le retour de l'état policier de Bachar. Quoi. Voilà.
Très bien. Guillaume Davranche, merci beaucoup pour toutes ces informations que tu nous as livrées.
Ah, je t'entends très très mal là.
Ah, pardon. Je reprends. Tu m'entends mieux ?
Ouais, je t'entends. Ouais.
Voilà. Alors, je disais, Guillaume Davranche, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré et pour toutes les informations que tu nous as livrées comme ça, inconditionnellement. Je le rappelle, le livre, c'est 10 questions sur l'anarchisme. Il est paru là en janvier 2020 aux éditions Libertalia. On le trouve notamment, eh bien, sur le site www.editionlibertalia.com. Il est au prix de 5 €. Pour en terminer, parce que eh bien, nous arrivons au terme de cet entretien, si jamais une question ici survient, eh bien, faites-moi signe. Pour en terminer, on aura encore beaucoup de choses à dire et probablement qu'on te solliciterait une autre fois si tu voudrais bien pour voilà, peut-être approfondir quelques sujets. Mais j'aurais voulu juste te questionner sur, selon toi, quand tu commets ce livre-là, à qui se destine-t-il ? Est-ce que dans ton esprit, tu as déjà pensé aux populations auxquelles tu aurais envie de faire découvrir eh bien, ce dont on n'a pas parlé encore pour de vrai, mais j'aurais bien voulu, et on en reparlera une autre fois, que tu nous dises, selon toi, l'anarchie, est-ce un ensemble de pratiques ? Est-ce une philosophie ? Est-ce que c'est un programme ? Ou est-ce que c'est un peu tout à la fois ou rien à la fois ? Mais voilà, on n'aura pas le temps aujourd'hui de parler de cela, mais voilà, à qui destines-tu ce livre ?
Alors, ne serait-ce que par son prix, il est destiné vraiment à tout le monde.
Tout le monde, ouais.
Et voilà, et puis la façon dont il a été écrit, moi ce que j'ai voulu faire, bon c'est pas très original hein, j'avoue, mais ce que j'ai voulu faire c'est quelque chose qui soit abordable par les curieuses et les curieux, sans être trop complexe, donc même l'architecture du livre, c'est voilà les 10 chapitres, le fait que ce soit organisé par mots-clés, des mots-clés qui sont vraiment des points de repère importants à retenir, des choses comme ça, c'est vraiment destiné aux tout-venants, hein, aux curieuses, aux curieux, aux gens qui connaissent pas du tout et qui voudraient découvrir. Mais il y a aussi un certain nombre de choses dans le livre, que ce soit des réflexions, des analyses stratégiques, ou même, y compris des fois, des points d'histoire qui sont pas forcément très connus, mais qui peuvent être à méditer. Je pense par exemple à des trucs pas très connus comme l'expérience anarchiste en Mandchourie ou lors de l'insurrection de Macédoine en 1903, bon voilà, chose qui n'est pas très, très connue. J'espère qu'il peut aussi apprendre des trucs aux militants et qu'il peut aussi être utile aux militants, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu cette double ambition que j'avais. Et puis pour conclure, pour moi l'anarchisme, j'ai pas tellement envie de dire que c'est une philosophie parce que malheureusement, quand on dit ça, ça nous renvoie à des choses assez individuelles. Et ça permet un peu toutes les tripatouillages, en fait, et toutes les manœuvres. Quand on commence à dire que l'anarchie est une philosophie, on se retrouve dans les pattes à devoir traîner Michel Onfray et des gens de cet acabit. Donc non merci. J'ai plutôt envie de dire que l'anarchisme, c'est un programme, en quelque sorte, c'est un programme, c'est une doctrine d'action, hein, mais c'est quelque chose sur lequel il doit y avoir des choses qui sont pensées collectivement, qui sont dites et agies collectivement. C'est un courant politique, hein, l'anarchisme. C'est pas juste une philosophie individuelle pour se la raconter, quoi. Voilà.
Ouais, très bien, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment. Et puis, j'espère que l'on pourra deviser un peu plus loin lorsque, tu auras probablement visité des lectrices et des lecteurs, hein, qui auront probablement des questions à te poser. Nous pourrions faire un point sur les retours et les questionnements successifs et pourquoi pas une suite à donner à cet ouvrage. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'habite déjà?
Non, pas du tout.
Non,
si j'ai un fantasme un jour, c'est de faire une suite à mon précédent ouvrage, Trop jeune pour mourir, et de réussir à raconter la suite de l'histoire avec les mêmes personnages, mais sur la période 1914-1919, et où là, il y aurait, je pense, également énormément de choses intéressantes à raconter et qui toucheraient également la Suisse d'ailleurs. Voilà.
Très bien, oui, très bien.
Qui intéresserait également sans doute beaucoup la Suisse. Et voilà, ça ce serait mon fantasme, mais ça veut dire se replonger dans plusieurs années de recherche et d'écriture. Et voilà, la vie est courte.
Eh oui, En tout cas, voilà, merci beaucoup. Et puis, ben, quoi qu'il en soit, on se tient un petit peu au courant.
Ok, ben, merci à vous.